Prenons nos Bibles et regardons ensemble de nouveau dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 5. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et je voudrais vous parler de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur pour toujours. J'utilise ce titre du verset 6. Où c'est écrit comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Mais lisons le texte, c'est écrit dans le verset 1, en effet. Donc ceci est lié à ce que nous avons déjà étudié dans le chapitre 4, et les versets 14 et 15 concernant Christ, le souverain sacrificateur, et nous avons vu la dernière fois, non seulement un souverain sacrificateur, mais un grand souverain sacrificateur, au-dessus de tout autre qui ont existé jusqu'à lui. Les autres étaient temporaires, mais voici celui qui est le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Donc, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, ce que l'auteur, l'écrivain de cette épître aux Hébreux a débuté dans le chapitre 4, il continue pour nous donner ce compte-rendu de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est écrit « En effet ». Il continue ce thème et nous allons voir comment cela s'applique au Seigneur Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur, pas temporaire comme les autres qui le précédaient, mais pour toujours. En effet, tout souverain sacrificateur, notons, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Alors ici, nous voyons des comparaisons, mais surtout des contrastes avec Christ comme le souverain sacrificateur pour toujours en relation avec ceux qui le précédaient. Quand on considère des comparaisons, nous savons que pour les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils étaient des simples hommes, comme c'est écrit dans le verset 1, pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, bien sûr, étant le Fils de Dieu, comme c'est écrit dans le verset 14, mais qui a traversé les cieux pour devenir un homme, afin que lui aussi il soit pris du milieu des hommes et établi pour les hommes. Et là, des hommes en particulier, c'est comme dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs étaient établis pour le peuple d'Israël, un peuple choisi du milieu des autres nations que ces souverains sacrificateurs représentaient, mais par comparaison, le Seigneur Jésus-Christ aussi est venu en tant qu'homme et a été établi pour les hommes que Dieu le Père a choisis du milieu des nations du monde et pour qui alors le Seigneur Jésus-Christ est venu afin d'accomplir leur salut. Donc c'est à cette fin qu'il a été oint comme souverain sacrificateur, exactement comme dans l'Ancien Testament. Ceux de l'Ancien Testament étaient oints pour représenter devant Dieu les pécheurs envers qui Dieu a donné le salut. Et donc, il représente ces hommes dans les choses qui concernent Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons ces comparaisons avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur de son peuple. Cela veut dire que personne ne doit s'imaginer pouvoir venir devant Dieu par ses propres moyens, mais seulement à travers le souverain sacrificateur établi par Dieu lui-même. Notons dans le service de Dieu, Hébreux 5, le verset 1, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est là que nous voyons maintenant le contraste. Il y a des comparaisons. Comme Christ a été pris du milieu des hommes, mais il n'était pas un homme comme les autres. Les autres offraient des offrandes et des sacrifices pour les péchés, qui consistait des offrandes et des sacrifices des animaux. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté avec son propre sang. Et c'est important alors de voir cette différence qu'il y a donc entre Christ et les souverains sacrificateurs qui le précédaient. En fait, ça c'est le thème de cette épître aux Hébreux, de démontrer la supériorité de Christ au-dessus de la loi. Il n'a pas mis de côté la loi, mais il a accompli la loi en tout ce que la loi prescrivait. Et nous avons vu jusque-là sa supériorité, même au-dessus des anges. Vous voyez, l'homme est tellement idolâtre qu'il préfère donner une gloire, une importance à la créature que de donner cette gloire uniquement au Créateur, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons sa supériorité au-dessus des anges, nous avons vu sa supériorité au-dessus de Moïse. L'homme a la tendance de vouloir élever les hommes dans une place d'importance au-dessus de ce que même la Bible donne à ces hommes. Ils étaient des pécheurs comme tout autre. Bien sûr, le Seigneur a utilisé Moïse pour communiquer sa loi, mais Moïse, comme nous avons vu, n'avait qu'un seul but en tant que prophète et médiateur, c'est de représenter le plus grand prophète, le plus grand médiateur qui devenait, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et donc ici, nous voyons la supériorité de Jésus-Christ en ce qui concerne les souverains sacrificateurs. Le souverain sacrificateur est un homme comme ceux qu'il représentait. Il s'agit ici de ceux de l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle ces hommes ne pouvaient pas continuer, que leur rôle en tant que souverain sacrificateur ne pouvait pas être pour toujours, parce qu'ils étaient des hommes, comme c'est écrit dans le verset 2. De faiblesse, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son pâturage. Ces hommes dans l'Ancien Testament qui représentaient le peuple d'Israël étaient eux-mêmes des pécheurs. Et c'est pourquoi c'est écrit que lorsque le souverain sacrificateur se présentait avec une offrande pour le péché du peuple, il était lui-même obligé d'offrir une offrande pour lui-même. C'est ça le verset 3 nous dit. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. C'est là que nous voyons maintenant la distinction, le contraste entre les souverains sacrificateurs de l'époque de l'Ancien Testament et Christ, le souverain sacrificateur. Christ, bien sûr, est venu en chair, mais il était sans péché. Lorsqu'il est allé à la croix pour donner sa vie et verser son sang, ce n'était pas pour des péchés quelconques en lui-même, il n'en avait pas. Mais il est allé à la croix pour représenter les pécheurs que le Père lui a donnés depuis l'éternité. Et donc, par cette unique offrande du sang de Jésus-Christ, il a une fois pour toutes effacé le péché de ce peuple. Il n'avait pas besoin d'offrir des offrandes encore par la suite, non. Son seul sacrifice suffisait pour satisfaire à la justice de Dieu. Et pour cela, Dieu est juste pour imputer, pour déclarer juste les pécheurs que le Seigneur Jésus-Christ a représentés. C'est comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament. Ils ne représentaient pas toutes les nations. Mais ce peuple d'Israël que Dieu avait choisi et mis à part pour sa gloire, ça c'est typique alors de la mort de Christ. Bien sûr, il y a des pécheurs du monde entier pour qui Christ est mort, mais c'est pas pour tous les mondes, tout le monde sans exception. On peut dire tout le monde sans distinction. Cela veut dire Christ, en donnant sa vie, a donné sa vie pour ceux que Dieu lui-même a choisi et déclaré comme ses élus. Et c'est pour eux, alors, qu'il est mort. Donc, dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur amenait son offrande, il avait besoin d'abord d'offrir pour lui-même et ensuite pour le peuple. Mais en cela, nous voyons la différence avec le Seigneur Jésus-Christ, surtout dans Hébreux chapitre 7 et le verset 27. C'est écrit, commençons dans le verset 26, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, est plus élevé que les cieux. » Mais notre verset 27 encore, « Qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui le précédaient, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Il y en a aujourd'hui qui prêchent que lorsque Christ a pris sur lui le péché de son peuple, que ce péché est devenu le sien. C'est-à-dire que lui-même, alors, il est devenu pécheur devant Dieu. Mais ça, c'est de l'hérésie de prêcher ainsi, parce que c'est aller au-delà de ce que dit la Bible. Bien sûr, c'est un mystère comment Christ pouvait souffrir à la place des pécheurs la justice que ces pécheurs-là étaient dus, mais que Christ lui-même a porté cette justice, mais sans péché, sans commettre le péché, sans être considéré comme un pécheur. Mais il y en a qui prêchent de cette manière, même parmi des prédicateurs qui se disent prédicateurs de la grâce, c'est le message que Christ est devenu un pécheur et il a dû alors, ils le disent même, il a dû souffrir d'abord pour ce péché qu'il est devenu et puis ensuite, maintenant, le péché de son peuple. Mais comme nous venons de voir, ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc encore, des comparaisons, des contrastes entre Christ, le souverain sacrificateur, qui est pour toujours par rapport à ceux qui le précédaient. Ici, dans les versets 4 et 5, alors, nous voyons des comparaisons aussi, parce que dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs ne s'attribuaient pas cette dignité. C'était un rôle que Dieu lui-même leur a donné afin qu'ils représentent le peuple. Aucun homme ne pouvait prendre cet honneur à lui-même, comme c'est écrit. Mais celui qui l'appelait, c'était Dieu lui-même, tout comme Aaron était auparavant. Donc le grand souverain sacrificateur a été pris de la communauté du peuple de Dieu, mais n'était pas choisi par le peuple. Ça, c'est intéressant de considérer parce que ce n'est pas à l'homme de choisir le Seigneur Jésus-Christ comme son souverain sacrificateur pour dire, voilà, c'est ça qui est acceptable alors à Dieu parce que c'est moi qui ai pris la décision. Non, l'homme, c'est lui qui bénéficie de ce que Christ a accompli, mais c'est pas, le choix n'est pas à l'homme. Comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, Christ lui-même a été nommé par Dieu pour son peuple, pour le peuple que Dieu a ordonné au salut. Et le principe ici est qu'aucun homme ne prend cet honneur à lui-même. C'est à cela que nous voyons des gens se donner un certain honneur à eux-mêmes en disant que non, j'ai pris la décision et c'est pour cela maintenant que Dieu me fait grâce. Donc la charge du grand souverain sacrificateur n'était rien à aspirer ou à faire campagne. Là encore, nous voyons aujourd'hui des gens qui sortent pour faire la campagne pour le Seigneur Jésus, qui veut bien, selon eux, régner et qui veut bien être leur sauveur, mais hélas, il faut le choisir comme dans une campagne électorale. Non. Lorsque nous sortons pour prêcher le message de l'Évangile, ce n'est pas pour faire une campagne afin que les gens puissent maintenant recevoir le Seigneur Jésus. Dieu, le Père lui-même, l'a déjà établi comme le grand souverain sacrificateur. Et Christ a ce droit et cet honneur de par l'appel de Dieu, comme c'est écrit dans le verset 4, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Et nous voyons l'exemple d'Aaron. C'est Dieu qui a établi Aaron pour être le souverain sacrificateur et sa postérité après lui jusqu'à ce que Christ vienne. Ce n'est pas quelque chose que Aaron lui-même s'est attribué ou bien que le peuple a regardé pour dire, ah, voilà un homme que nous voulons maintenant être notre souverain sacrificateur. Il a été donné ce rôle par le droit de naissance et donc choisi de Dieu. C'est un honneur qu'aucun homme ne pouvait prendre à lui-même. Et on doit dire la même chose concernant ce que le Seigneur Jésus-Christ représente. On peut dire que c'est par droit de naissance spirituelle. C'est-à-dire que ce que le Père a choisi, qu'il a donné à son Fils, et que le Fils vienne représenter dans sa vie et dans sa mort, ce n'est pas un honneur que l'homme s'attribue, mais c'est Dieu qui fait naître du nouveau et qui fait entrer alors dans cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, nous voyons que le vrai sacerdoce et le grand sacrificateur venaient d'une lignée spécifique de descendance. Chaque sacrificateur d'abord venait de Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham, dont le nom a été changé après en Israël, et chaque sacrificateur venait d'un des fils de Jacob, c'est-à-dire de Lévi, l'un des 12 fils d'Israël. Et c'est Dieu qui a mis la tribu de Lévi à part. Donc, ce n'est même pas Lévi qui s'est donné cet honneur. Non, c'est Dieu qui a mis la tribu de Lévi à part comme une tribu pour le servir et représenter toute la nation d'Israël. Nous voyons ça dans Exode chapitre 13. C'est pourquoi, quand nous étudions l'Épître aux Hébreux, il faut avoir un très bon fondement dans l'Ancien Testament. Et donc, à nous, les prédicateurs, de prendre les Écritures de l'Ancien Testament et expliquer à ceux qui nous écoutent, parce que la plupart des gens sont habitués au Nouveau Testament, mais on ne peut pas avoir le Nouveau sans l'Ancien Testament. Et il faut savoir que les apôtres, lorsqu'ils sortaient pour prêcher, qu'est-ce qu'ils avaient, si ce n'est que l'Ancien Testament à ce temps-là? Mais il n'y a pas de message. Il n'y a pas un message de la loi dans l'Ancien Testament et puis de la grâce dans le Nouveau. Non. Bien sûr, dans la loi, c'est là que nous voyons même la grâce de Dieu manifestée. Comment? À travers les sacrificateurs, à travers les sacrifices, à travers le tabernacle, tous symboliques de Christ, le Christ qui devait venir, et même en mettant à part cette tribu de Lévi, ça servait d'exemple comment Dieu a choisi parmi les hommes une tribu particulière, et de cette tribu, il devait susciter des sacrificateurs qui devaient le représenter devant toute la nation d'Israël. Donc, lorsque le tabernacle a été construit, ce n'était pas à chaque individu d'entrer et sortir, comme si ça dépendait maintenant de chaque individu. Non, tout était par représentation. Donc, ici, dans Exode, chapitre 13, c'est écrit dans le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, notons verset 2, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Donc, ici, les premiers-nés étaient mis à part, consacrés à l'Éternel, pour un but. Dans le verset 3, c'est écrit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Alors, qu'est-ce que ces premiers-nés représentaient? Ça représentait le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né de Dieu. Mais dans Nombre chapitre 3, c'est ici que nous comparons les Écritures. Donc, nous joignons Nombre chapitre 3 avec ce que nous venons de lire ici concernant les premiers-nés qui devaient être séparés à Dieu, surtout dans le verset 40 et 41. C'est écrit, l'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés, notons, mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc, les premiers-nés étaient consacrés, mais maintenant, Dieu a désigné les Lévites de représenter tous ces premiers-nés et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Donc, nous voyons par là, tout est par représentation. Et cela, par comparaison, le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né, celui qui est l'héritier de toutes choses, de Dieu, et c'est en lui, c'est lui qui a été alors établi comme le représentant de ceux qui sont les premiers-nés de Dieu, c'est-à-dire les élus qu'il a choisis. Mais Lévi avait en fait trois fils, et vous pouvez lire cela dans l'Ancien Testament, Gershon, Kohath et Merari. C'était les trois fils de Lévi. Et chacune de ces lignées familiales avait ses propres devoirs. Donc, même en cela, ce n'était pas simplement une question d'être né de la lignée de Lévi, mais chaque famille devait alors avoir son rôle devant Dieu. La famille de Gershon s'occupait du voile, du tabernacle et de la clôture et des rideaux du tabernacle. Tout ça, vous pouvez lire dans Nombre chapitre 3, et le verset 25 et 26. La famille de Kohath s'occupait du mobilier du tabernacle, comme le lampadaire ou bien l'autel de l'encens et l'arche de l'alliance. C'était leur rôle. Donc même en cela, ce n'était pas à chacun de décider ce qu'ils allaient faire. Tout était établi précisément par Dieu. La famille de Merari s'occupait des planches et des piliers du tabernacle et de la clôture. Si on avait le temps, on allait lire tout cela dans Nombre chapitre 3, les versets 25 jusqu'au verset 27. Mais ces familles, en tant que telles, n'étaient pas nécessairement des sacrificataires, bien qu'elles étaient parmi les Lévites. Le sacerdoce lui-même, comme c'est écrit dans notre texte ici, dans Hébreux 5, le verset 4, est venu par Aaron, qui était le frère de Moïse. Il était de la famille de Kohath, et la famille d'Aaron et leurs descendants ont composé alors les souverains sacrificateurs. C'est de cette descendance-là que les souverains sacrificateurs sont venus. Et le grand souverain sacrificateur était généralement le fils aîné d'Aaron. Sauf dans les cas où ils étaient disqualifiés par le péché, comme Nadab et Abihu, dans Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 3, où ils sont entrés pour offrir devant Dieu un feu étrange et Dieu les a détruits. Et même en cela, si vous voulez voir ça dans Lévitique chapitre 10, l'importance d'avoir un représentant devant Dieu dans la personne d'Aaron dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas à chacun d'entrer et sortir comme il voulait, même en tant que souverain sacrificateur. C'est écrit dans Lévitique 10, verset 1, le fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Et voilà ce que la Bible dit. Aaron garda le silence. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Et nous gardons le silence. C'est à Dieu de déterminer qui sauvera et qui condamnera. Et nous gardons le silence devant lui, même en ce qui concerne le salut, sachant que, comme dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a établi ses souverains sacrificateurs pour sa gloire et pour son honneur. Ainsi, il a fait pour son Fils. Et qui sommes-nous d'aller contre ce que Dieu lui-même a établi? Alors aujourd'hui, il nous est également interdit d'être notre propre sacrificateur. En fait, c'est une grande arrogance de penser que nous pouvons nous approcher de Dieu par nous-mêmes sans passer par le grand souverain sacrificateur qui est pour toujours dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voyons, revenant dans Hébreux chapitre 5, verset 5, comment Christ est qualifié en tant que souverain sacrificateur pour toujours. C'est écrit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit. Donc ici, nous voyons l'alliance éternelle de Dieu dans sa grâce, où même avant de créer le monde, Christ était là, déjà établi comme celui qui devait sauver le peuple élu de Dieu, et dans l'accomplissement de temps, venir en chair et satisfaire toutes les exigences de Dieu le Père à son égard. À part lui, il n'y a pas d'autres souverains sacrificateurs vers qui nous devons regarder ou par qui nous devons venir. C'est à travers le Seigneur Jésus-Christ que maintenant ce sacerdoce est devenu permanent, en contraste encore avec ceux de l'Ancien Testament qui étaient temporaires et en fait corrompus, parce que les hommes eux-mêmes étaient corrompus. Voilà le point de tout cela. Mais c'est sur quelle base que Christ est établi comme ce souverain sacrificateur pour toujours? Notons, c'est écrit dans le verset 5, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ceci est tiré de l'Ancien Testament. Premièrement, si vous regardez dans le psaume, chapitre 2 et le verset 7, c'est comme je disais, en étudiant l'Épître aux Hébreux, nous devons toujours garder l'Ancien Testament ouvert, parce que ces références viennent de l'Ancien Testament. Ici, dans Hébreux, ou bien dans le psaume 2, c'est écrit, « Celui qui siège, verset 4, dans les cieux, rit. Le Seigneur se moque d'eux, il se moque des hommes qui se rébellent, comme c'est écrit dans les premiers versets. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, verset 1, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? » Et nous savons que cela a été accompli lorsqu'ils ont pris le Seigneur Jésus-Christ pour le crucifier, Pilate, Hérode, et le peuple d'Israël. Mais en tout cela, c'est écrit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Ils ont fait ce qu'ils voulaient en crucifiant le Seigneur Jésus, mais à travers leur rébellion, Dieu a accompli son œuvre, sa volonté. Ils ont fait leur volonté, mais il a accompli sa volonté. Et ils ne savaient pas, mais tout en offrant l'agneau de Dieu, c'est ce qu'ils ont fait. Puis il leur dit, verset 5, dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et puis voilà, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bon, dans quel sens est-ce qu'il a engendré son fils, surtout le jour de sa mort? Nous savons que le mot engendrer peut parler de sa naissance, mais ici, dans le contexte de Christ en tant que souverain sacrificateur, dans quel sens il était, et c'est surtout important de noter, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Christ est mort, bien sûr, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Donc, c'est à travers sa mort et sa résurrection que le Seigneur Jésus-Christ est établi pour toujours comme le souverain sacrificateur. Nous voyons ça particulièrement dans le livre des Actes des apôtres, Actes chapitre 13 et le verset 33. Notons ce que Paul prêche ici. En disant, commençons dans le verset 30, où il parle de Christ et sa résurrection. On peut remonter jusqu'à verset 28. « Quoiqu'il ne trouvasse en lui rien qui fût digne de la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. » Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, ceux qui sont opposés à Christ n'ont pas pu faire plus ou moins de ce qui était déjà écrit de lui. Il descendit de la croix et le déposa dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, notons, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Notons, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ici, dans Hébreux chapitre 5, quelle est la preuve alors que Christ et en effet, ce souverain sacrificateur, pour toujours, c'est parce qu'il est venu et il a accompli tout ce que ceux qui l'ont précédé n'ont pas pu accomplir, mais il l'a accompli parfaitement. Et même jusqu'à donner sa vie en sacrifice, en contraste avec ceux de l'Ancien Testament qui offraient des victimes propitiatoires, mais parmi les animaux. Mais Christ donnant lui-même son propre corps et son propre sang. Mais plus que tout, ceux de l'Ancien Testament, une fois morts, il y avait d'autres qui prenaient leur place. Comment est-ce que nous savons que Christ est le souverain sacrificateur pour toujours? Parce qu'il est ressuscité. C'est ça le sens. Dans le verset 5, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, c'est à travers sa résurrection que Dieu a démontré, à travers son fils, qui n'était pas un sacrificateur comme Aaron, qui devait d'abord expier son propre péché en premier, et puis une fois mort, un autre devait prendre sa place. Non. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ a manifesté deux choses. Premièrement, cette résurrection a justifié le Saint Jésus comme le Saint du Père et comme le oint du Père. Et puis, la résurrection aussi démontre que ceux pour qui Christ est mort et ressuscité étaient eux-mêmes, à ce moment-là, justifiés devant Dieu. Parce que Christ a porté la justice de son Père. C'est lui qui a mérité le salut de son peuple sans lui-même devenir pécheur. Alors nous allons arrêter là parce que, voyez dans le verset 6, c'est écrit comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Nous allons voir en détail dans Hébreux chapitre 7 un peu plus le développement de ce terme de Jésus en tant que grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et la prochaine fois, je voudrais revenir là-dessus et regarder comment cet homme mentionné dans l'Ancien Testament, qui n'avait pas de commencement ni de fin, Melchizedek, le nom signifie le roi de justice, et c'est lui qui a apparu à Abraham lorsque Abraham est revenu de la défaite des rois, et c'est Melchizedek, dans le Hébreux chapitre 7, le verset 1, qui était roi de Salem, et notons sacrificateur du Dieu très haut. Donc pourquoi est-ce que Christ est de l'ordre de Melchizedek? C'était un autre ordre à part la postérité d'Aaron, parce que Christ est venu en fait de Judas. Donc, il n'y avait pas en Judas cette lignée, si vous voulez, de sacrificateur. Cela provenait de Lévi. Mais il fallait que Dieu coupe cette lignée avec Aaron, établir tout un autre ordre dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, comme lorsque Christ est venu dans ce monde, il était conçu dans le sein de Marie, qui était une vierge, mais il n'était pas de la postérité d'Adam dans ce sens. Un corps a été préparé pour lui. C'était impossible que Christ soit de la postérité d'Adam ayant la semence d'un homme, autrement il serait un pécheur comme tout autre. Et en effet, c'est la même chose concernant Christ et Aaron. Il ne pouvait pas continuer dans cette lignée qui était plein de faiblesses à cause du péché de ce peuple. Non, Dieu l'a établi selon l'ordre de Melchizedek. Et nous aurons plus d'explications de cela, plus nous continuons dans cette épître, surtout dans le chapitre 7. Mais suffit-il pour aujourd'hui de comprendre comment Dieu a établi son Fils comme le grand souverain sacrificateur pour toujours. Et heureusement, parce que si nous sommes sauvés, c'est grâce à lui qui est venu et qui a accompli dans sa vie tout ce qui est nécessaire pour satisfaire à la justice de Dieu, à la loi de Dieu. Et puis, par sa mort, il a rançonné une fois pour toutes, réconcilié une fois pour toutes le peuple qu'il représente. Et c'est en lui que nous trouvons le salut. Donc, que son nom soit béni. Amen.